Chapitre 6. Les déclarations du maître optimiseur ont dû les rassurer, dit Nicole au docteur Bleu. Max a naturellement des doutes. Il ne peut croire que vos semblables prendront soin de nous si la situation empire. Les hostilités s'interrompront sous peu. Toute nouvelle escalade fera désormais l'objet de représailles massives. Un grand nombre des nôtres y travaillent depuis près de 2 mois. Est-il exact que tous les octopodes qui auront participé à cette guerre seront éliminés dès le retour de la paix? Oui, mais ils ne mourront pas tous immédiatement. On les informera de leur inscription sur la liste d'attente. Le nouveau maître optimiseur décidera du moment en fonction des besoins de la colonie et du taux de reconstitution. Elle déjeunait à l'hôpital, après avoir consacré la matinée à tenter en vain de sauver 2 fourmis prises pour cible par des humains, alors qu'elle travaillait dans un des rares champs de céréales subsistant au nord de la forêt. Pendant leur repas, un mille-pattes passa dans le couloir. Le docteur Bleu remarqua l'expression de Nicole. « Quand nous avons embarqué dans Rama avant la mise en place de notre écosystème, les biotes se sont chargés d'effectuer les travaux secondaires comme la maintenance. Nous utilisons de nouveau leurs services. Comment leur transmettez-vous vos instructions? Nous n'avons jamais pu établir de communication avec eux. Ils sont programmés lors de leur fabrication. » En nous servant d'un pupitre comparable à celui de votre refuge new-yorkais, nous avons demandé aux Raméens d'adapter leur logiciel à nos besoins spécifiques. C'est la raison d'être des biotes, devenir les serviteurs des passagers de ce vaisseau. Eh bien, Richard, cette possibilité ne nous est à aucun moment venue à l'esprit. Nous voulions que cette colonie soit en tout point semblable aux autres, disait le docteur Bleu. Et sitôt qu'ils ne nous ont plus été utiles, nous avons réclamé leur retrait de notre territoire. Avez-vous eu depuis d'autres contacts avec les Raméens? Très peu. Mais nous restons en liaison avec les usines situées en sous-sol afin d'obtenir les matières premières dont nous manquons. Une porte s'ouvrit et un octopode entra. Il s'entretint avec le docteur Bleu dans leur langage en utilisant des bandes de couleurs très étroites. Nicole reconnut les mots « permission » et « cet après-midi », mais ce fut pratiquement tout. Après le départ du visiteur, le docteur Bleu lui annonça qu'elle lui avait préparé une surprise.
« Une de nos reines doit pondre aujourd'hui. Ses surveillants estiment que l'événement aura lieu dans moins d'un terre. J'avais demandé que vous puissiez y assister et le maître optimiseur vient de donner son accord. » Je suis certaine que vous trouverez cela plein d'intérêt.
Pendant le trajet vers le domaine des reines, un secteur de la cité d'Émeraude que Nicole n'avait encore jamais visité, le docteur Bleu lui rappela quelques aspects du mode de reproduction des octopodes.
En temps normal, chacune des 3 reines de notre colonie est fertilisée tous les 5 ans, et seuls quelques œufs sont conservés jusqu'à leur éclosion. En raison des risques de conflit, le maître optimiseur a décrété une reconstitution. Les 3 reines ont été fécondées par les mâles réquisitionnés pour participer à l'effort de guerre. Tous se voient alors accorder leur épanouissement sexuel. C'est une mesure très importante, car elle garantit tout au moins symboliquement que leurs gènes ne disparaîtront pas. N'oubliez pas qu'ils savent sitôt qu'ils sont affectés à l'arsenal que leur élimination ne saurait tarder.
Chaque fois que je pense que nous avons des points communs, quelque chose me rappelle nos différences. Mais, comme dirait Richard, pourrait-il en être autrement? Ils sont le fruit d'une évolution qu'on ne peut comparer à la nôtre.
Ne soyez pas effrayés par la taille de la reine et dissimulez ce que vous ressentez si ce n'est pas de la joie. Lorsque j'ai suggéré de vous autoriser à assister à la ponte, un membre de l'entourage du maître optimiseur a rétorqué que vous ne pourriez pleinement apprécier ce que vous verriez. Un autre a craint que vous n'exprimiez du dégoût et ne gâchiez ainsi le plaisir des autres spectateurs.
Nicole affirma qu'elle ne ferait rien de malséant. Elle était flattée de cet honneur et bouillait d'impatience quand le véhicule les déposa devant les murailles du domaine des reines.
Le dôme de pierre blanche où elle entra avec le docteur bleu avait 10 mètres de hauteur et couvrait environ 3 500 mètres carrés. Juste au-delà du seuil, un plan et un avis indiquaient aux visiteurs dans quelle salle aurait lieu la pondaison. Nicole suivit le docteur bleu et d'autres octopodes vers le haut de 2 plans inclinés. Elles empruntèrent ensuite un couloir interminable. À son extrémité, elles prirent à droite et atteignirent un balcon qui surplombait une vaste pièce rectangulaire. Le docteur bleu la guida vers une balustrade qui empêchait les spectateurs de faire une chute de 4 mètres. Derrière elle, les 5 gradins furent rapidement combles. Sur le balcon situé de l'autre côté, avait pris place une 60aine de curieux. Nicole baissa les yeux sur un canal qui traversait les lieux et disparaissait sous une voûte s'ouvrant sur leur droite. Il y avait d'étroites passerelles de chaque côté du bassin, et celle d'en face s'élargissait pour former une large plateforme devant une paroi de roche peinte de nombreux motifs colorés et hérissée d'une 100aine de tiges argentées. Nicole établit aussitôt un rapprochement avec le puits circulaire de l'antre new-yorkais des octopodes. Le maître optimiseur entra par une porte de l'étage inférieur, se dressa sur la passerelle et fit un bref discours. Le docteur bleu se chargea de préciser le sens des couleurs que Nicole ne pouvait interpréter. L'orateur rappelait aux spectateurs qu'il était impossible de prévoir l'instant exact d'une pondaison, mais que la reine serait prête dans quelques fengs. Après avoir rappelé l'importance d'une reconstitution pour la perpétuation de l'espèce, le maître optimiseur ressortit. L'attente commença. Nicole tuait le temps en essayant de suivre les conversations des octopodes du balcon opposé. Elle conclut qu'il lui restait encore bien des progrès à faire pour maîtriser leur langage. Finalement, de grandes portes s'ouvrirent sur la gauche de la passerelle. Une créature qui mesurait au moins 6 mètres de hauteur et dont le ventre était incroyablement distendu se traîna dans la salle. Elle s'arrêta pour s'adresser aux spectateurs, mais Nicole ne put comprendre le sens du flot de couleurs vives qui se répandit sur son corps. Puis, la reine se tourna lentement vers la paroi, étira ses tentacules et entreprit de se hisser laborieusement vers le haut des barres. Des explosions multicolores désordonnées ponctuaient son ascension. Nicole pensa à des expressions d'émotion, peut-être de douleur et de fatigue. Elle remarqua en regardant l'autre balcon que nul ne faisait plus le moindre commentaire. Une fois en position au milieu de la paroi, la reine enroula tous ses tentacules autour des tiges argentées et se tourna pour exhiber son ventre. Nicole connaissait bien l'anatomie des octopodes depuis qu'elle travaillait à l'hôpital, mais elle n'aurait jamais imaginé que leur peau pouvait s'étirer à ce point. La reine entreprit de se balancer lentement, en se détachant de la paroi rocheuse à chaque mouvement. Les manifestations d'émotion se poursuivaient. Le flot multicolore continuait de se répandre sur son corps. Les couleurs devinrent plus vives quand un geyser de fluide vert sombre jaillit sous elle, immédiatement suivi par une cascade de points blancs de grosseur variable. Nicole était sidérée. En contrebas, une 12aine d'octopodes se hâtaient de balayer les œufs et le liquide visqueux dans l'eau du canal. 8 autres vidaient de grands conteneurs dans le bassin où bouillonnait le sang, les œufs et l'épais liquide verdâtre. En moins d'une minute, le courant emporta cette bouillie sous la voûte de droite. La reine n'avait pas changé de position. Dès que l'eau fut de nouveau claire, toutes les lentilles se rivèrent sur elle. Nicole resta interloquée en constatant à quel point son volume s'était réduit. Elle estima que le poids de la parturiente avait dû diminuer de moitié pendant la fraction de seconde nécessaire à l'expulsion des œufs et de ce qui tenait lieu de placenta. Elle perdait du sang
et deux octopodes de taille normale avaient gravi la paroi pour la rejoindre et la soigner. Le docteur Bleu tapota l'épaule de Nicole afin de lui indiquer que le spectacle était terminé. Assise dans une des chambres de l'hôpital, Nicole reconstituait mentalement la scène. Elle ne s'était pas attendue à avoir des émotions aussi intenses. Elle n'avait suivi que d'un œil les explications du docteur Bleu pendant leur retour. Les conteneurs vidés dans le canal contenaient de petits animaux chargés de rechercher et de tuer certains embryons. C'était ainsi que les octopodes contrôlaient le nombre de rennes, de repus, de minimorphes et de représentants des autres variétés de leur espèce qui composeraient la prochaine génération. En tant que mère, Nicole essayait de deviner ce qu'avait dû éprouver la reine. Elle se sentait proche de la créature démesurée qui s'était hissée de barre en barre. Pendant la ponte, Nicole avait contracté ses reins en se rappelant la souffrance et la joie de ses 6 accouchements. Elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec Michael O'Toole dans Rama 2 après la naissance de Simone et de Cathy. Elle avait tenté de lui expliquer ce qu'une femme ressentait en mettant un enfant au monde. Elle s'était finalement résignée à admettre qu'il était impossible de faire partager de telles émotions. L'univers se divise en 2 groupes, avait-elle dit. Il y a les êtres qui ont porté la vie en eux et ceux qui ne l'ont pas fait. À présent, des dizaines d'années plus tard et des milliards de kilomètres plus loin, elle voulait ajouter un corollaire à cette remarque. Les mères de toutes les espèces ont entre elles d'étroites affinités. Elle eût aimé pouvoir communiquer avec la reine, apprendre ce qu'elle avait pensé et ressenti avant et pendant la ponte. Dans la souffrance et l'émerveillement propres à de tels instants, avait-elle connu une sérénité incommensurable? Imaginé sa progéniture et ses descendants dans un avenir imprévisible, reconstituer mentalement le cycle miraculeux de la vie? Nicole savait qu'un tel entretien ne pourrait jamais avoir lieu. Elle ferma les yeux pour tenter de revoir les explosions multicolores sur le corps de la reine. Était-ce l'expression de ce qu'elle éprouvait? Ces êtres pouvaient-ils, grâce à leur langage si riche, faire partager des choses aussi complexes que l'extase, bien mieux que les humains, limités par les mots? Des tâches l'attendaient hors de cette pièce, mais elle n'était pas prête à rompre sa solitude. Elle ne voulait pas laisser son existence quotidienne émousser tout ce qu'elle ressentait. Elle commençait à souffrir de la solitude. Elle eût aimé parler à un proche, de préférence Richard, de ce qu'elle avait vu et ressenti dans le domaine des reines. Elle se rappela quelques vers d'un poème de Benita Garcia, ouvrit son ordinateur portable et le trouva. En période de doute ou de douleur intense, quand je suis écrasé par le poids de la vie, je cherche autour de moi, rongé par l'impatience, une âme bienveillante qui serait mon amie et qui aurait la force de repousser au loin ce qui me fait trembler, pleurer et m'affliger. Mais là, je m'a appris que cet espoir est vain et que c'est en moi-même que je devrais hurler. Après avoir relu plusieurs fois ce texte, Nicole fit reposer son front sur l'unique bureau et s'abandonna au sommeil. Le docteur Bleu lui tapotait l'épaule. Elle sursauta et ouvrit les yeux. « Vous dormez depuis près de 2 heures. On vous attend au centre administratif. » « Que se passe-t-il? Pourquoi veut-on me voir ?»« Nakamura a fait un discours important et le maître optimiseur souhaite en parler avec vous. » Nicole se redressa rapidement et dut se retenir au meuble. Les étourdissements disparurent en quelques secondes. « Merci pour tout, docteur Bleu. Je serai prête dans 1 minute. »